Le journal de George Fox 1657-1661 de retour en Angleterre fin du volume 1 page 1 depuis Newcastle, nous voyageâmes, tenant des réunions et rendant visite aux amis, dans le Northumberland et l'évêché. Nous eûmes une très bonne réunion chez le lieutenant Dove, où beaucoup furent tournés vers le Seigneur et son enseignement. Après quoi, j'allai rendre visite à un juge de paix, homme très sobre et affectueux, qui reconnut la vérité. De là nous vîmes à Durham, où un homme était venu de Londres pour y établir un collège afin d'y former des ministres de Christ, comme il disait. J'allai avec quelques autres raisonner avec cet homme et lui faire voir un conseiller aux hommes l'hébreu, le grec, le latin et les sept arts, qui n'étaient que les enseignements de l'homme naturel, n'étaient pas la manière de faire de des ministres de Christ. Car les langues commencèrent à Babel, et pour les Grecs qui parlaient le grec comme langue maternelle, la prédication de la croix du Christ était folie. Et pour les Juifs qui parlaient l'hébreu comme langue maternelle, le Christ était une pierre d'achoppement. Les Romains, qui avaient le latin, persécutèrent les chrétiens. Et Pilate, l'un des gouverneurs romains, plaça au-dessus du Christ lorsqu'il le crucifia, une inscription écrite en hébreu, en grec et en latin. Nous voulions que cet homme voie que les multiples langues commencèrent à Babel, et qu'on les plaça au-dessus du Christ la parole lorsqu'on le crucifia. Jean le divin, qui prêcha la parole qui était au commencement, dit que la bête et la prostituée ont pouvoir sur les langues et les idiomes, et qu'ils sont comme des os. Ainsi, lui dis-je, ils pouvaient voir que la prostituée et la bête ont pouvoir sur les langues et les nombreuses langues, qui sont dans le mystère Babylone, car elles commencèrent à Babel, et les persécuteurs de Jésus-Christ les placèrent sur lui lorsqu'ils le crucifièrent, mais lui est ressuscité au-dessus d'elles toutes, lui qui était avant elles toutes. Maintenant, lui dis-je, pensez-vous faire des ministres de Christ par ces langues naturelles et confuses, issues de Babel, admirées à Babylone, et placées au-dessus du Christ la vie par un persécuteur? Au nom, l'homme reconnut bien des choses, puis nous lui montrâmes davantage que le Christ fit lui-même ses ministres, leur donna des dons et leur dit, « Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Et Pierre et Jean, bien qu'incultes et ignorants quant au savoir des écoles, prêchèrent Jésus-Christ, la parole, qui était au commencement avant Babel. Paul aussi fut fait apôtre, non de la part des hommes ni par un homme. Il ne reçut pas non plus l'évangile d'un homme, mais de Jésus-Christ, qui est le même maintenant, et l'évangile aussi comme en ce jour-là. Après s'être ainsi entretenu avec lui, il devint très aimant et doux, et après y avoir davantage réfléchi, renonça à établir son collège. Quand j'étais dans l'évêché, Anthony Pearson vint à moi et désira vivement que je l'accompagne pour voir Henry Vane, mais j'avais peu sur moi pour y aller alors. Il me le recommanda et dit que Henry Vane s'était sérieusement renseigné sur moi. Lorsque j'allais chez Henry Drapé, l'aumônier de Henry Vane s'approcha de moi et commença à me parler de la justice de l'homme, de la propre justice et de la justice de la loi. Je lui répondis que j'étais dans la justice du Christ, justice qui existait avant la propre justice et avant l'existence de la justice de l'homme. L'aumônier répondit, « Prends garde au blasphème et à la présomption. » Je lui dis, « Le Christ n'est-il pas la fin de la loi pour la justice, et n'était-il pas avant la propre justice et la justice de l'homme ou encore la justice de la loi, et n'existera-t-il pas encore quand leur justice aura disparu, et la justice du Christ accomplit la loi ?» Puis je dis, « Toi qui appelles cela blasphème et présomption, tu ne sais pas ce que tu dis. » Il me demanda alors si je viendrais à Redcastle, et je lui répondis que j'avais peu à dire là-dessus étant sous l'instruction du Seigneur. Mais le lendemain, j'y descendis, et l'on me fit monter dans une chambre avec l'épouse de Henry Vane. Au bout d'un moment, il monta avec l'un des magistrats de la Nouvelle-Angleterre, demanda si j'étais George Fox. Je fus surpris de voir comme il était jeune. Je fus poussé par le Seigneur à lui parler de la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, et du fait que le Christ a dit, « Croyez en la lumière afin que vous deveniez enfants de la lumière », et comment le Christ avait promis le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, qui les conduirait dans toute la vérité, ce dont nous rendions témoignage, et comment la grâce de Dieu qui apporte le salut était apparue à tous les hommes et était l'instructrice des saints au jour des apôtres, et aussi maintenant. Il dit alors qu'il avait de l'expérience de tout ce que j'avais dit. Je répondis donc, « Comment cela est-il arrivé si vous ne croyez pas à la lumière comme le Christ le commande ? Et comment pouvez-vous parvenir à la vérité, si vous n'avez pas été conduit par l'Esprit de vérité, qui conduisit les disciples dans toute la vérité, que le Christ avait promis de leur envoyer? Et comment pourriez-vous connaître le salut s'il n'est pas par la grâce de Dieu qui l'apporte et qui a enseigné les saints? Et donc, de quoi et en quoi est votre expérience? Il se mit alors à me dire comment la parole s'est faite chair et a demeuré parmi eux. Oui, dis-je, cela est vrai parmi les disciples, mais maintenant il est révélé par la lumière et l'Esprit. Ainsi, vous êtes monté par un autre chemin que par la porte, et vous avez connu quelque chose autrefois. Mais maintenant il y a en vous une montagne de terre et d'imagination, d'où s'élève une fumée qui a obscurci votre cerveau, et vous n'êtes plus l'homme que vous étiez autrefois. je lui déclarai que la promesse de Dieu était pour la semence et qu'ils pouvaient la connaître en eux-mêmes, que la parole s'était faite chair, mais non une chair corrompue, car le Christ n'a pas pris la nature des anges, mais la semence d'Abraham. Ainsi Ilvan pouvait connaître en lui cette semence que le Christ prend sur lui, car ceux qui sont de la foi sont d'Abraham, et viennent à être chair de sa chair et os de ses os. Alors il dit que j'avais dit que la semence était Dieu, et comme il formulait cette accusation, le magistrat de la Nouvelle-Angleterre qui était avec lui l'affirma aussi. Mais je dis que je n'avais pas dit cela, et que j'avais dit que le Christ avait pris sur lui, non la nature des anges, mais celle de la semence. Il se souvint de mes paroles et reconnut son erreur, mais il entra dans une grande agitation et une passion, de sorte qu'il n'y avait plus de place pour la vérité dans son cœur. Je fus poussé par le Seigneur à placer au-dessus de sa tête la semence, Christ Jésus, et à montrer que la semence à laquelle la promesse était faite n'était pas à beaucoup, mais à ceux qui pouvaient la sentir en leur propre personne. Puis je m'en allai, et il dit ensuite à quelques amis que si Anthony Pearson et quelques autres n'avaient pas été avec moi, il m'aurait chassé de sa maison comme un fou. Les amis qui étaient avec moi trouvèrent étrange de voir ses ténèbres et son impatience, mais la puissance du Seigneur vint sur tout. Je vis que cet homme était vain, altier, orgueilleux et présomptueux, que le Seigneur le frapperait et était contre lui, et qu'il attristait la vie juste. Il demeura très haut jusqu'à l'arrivée du roi, et ensuite il fut décapité, mais il pouvait à peine supporter les amis à moins qu'ils ne retirent leur chapeau devant lui. De Durham, nous allâmes chez Anthony Pearson, de là dans le Cleveland, et nous traversâmes le Yorkshire jusqu'à l'extrémité de Holderness, nous eûmes de puissantes réunions, la puissance du Seigneur nous accompagnant. Après avoir quitté la maison d'Anthony Pearson, nous passâmes par Hull et Pomfrey jusqu'à chez George Watkinson, et nous visitâmes la plupart des réunions de ces contrées, jusqu'à Scallous, puis Swarthmore, la puissance et le bras éternel de Dieu nous portant et nous préservant. Après avoir visité les amis là-bas, je passai dans le Yorkshire et le Cheshire, puis à travers d'autres régions dans le Derbyshire et le Nottinghamshire, et nous eûmes de glorieuses réunions, la présence du Seigneur étant avec nous. À Nottingham, j'envoyai chercher Rhys Jones, en le priant d'informer les siens que j'avais quelque chose à leur dire de la part du Seigneur. Il vint et me dit, beaucoup d'entre eux vivaient à la campagne, et ils ne savaient pas comment les contacter. Je lui dis, il peut en informer ceux des environs de la ville et faire porter le message au plus grand nombre possible à la campagne. Le lendemain, nous nous réunîmes au château, environ 80 personnes, auxquelles je déclarai la vérité pendant environ 2 heures, et la puissance du Seigneur était sur eux tous, de sorte qu'ils n'avaient pas la force d'ouvrir la bouche pour s'opposer. Quand j'eus fini, l'un d'eux me posa une question, à laquelle je répugnais à répondre, car je vis qu'elle pouvait conduire à des crêles, disputes doctrinales, et je ne voulais pas entrer dans des controverses, car certains là étaient sensibles, pourtant je ne savais guère comment m'en tirer. Je répondis donc à la question, et je fus poussé à parler à Rhys Jones et à lui dire qu'il avait été l'homme qui avait dispersé ceux qui avaient été sensibles, et certains qui avaient été convaincus et avaient été conduits hors des vanités du monde qu'il avait autrefois jugées, mais maintenant ils jugeaient la puissance de Dieu en eux, et eux étant simples se tournaient vers lui, ainsi lui et eux furent tournés à être plus vains que le monde, car beaucoup de ses disciples étaient devenus les plus grands joueurs de football et lutteurs de tout le pays. Je leur dis que c'était le serpent en lui qui avait dispersé et fait du tort à ceux qui étaient tendres envers le Seigneur. Néanmoins, s'il attendait dans la crainte de Dieu que la semence de la femme, Christ Jésus, écrase en lui la tête du serpent, qui avait dispersé et fait ce tort, il pourrait venir à les rassembler de nouveau par cette semence céleste, quoique ce serait pour lui un travail difficile, de les rassembler de nouveau hors de ces vanités dans lesquelles il les avait entraînés. À cela, Rhys Jones dit, « Tu mens, ce n'est pas la semence de la femme qui écrase la tête du serpent. Non, dis-je, qu'est-ce donc ? Je dis que c'est la loi, répondit-il. Mais dis-je, l'Écriture parlant de la semence de la femme dit, elle t'écrasera la tête et tu lui meurtriras le talon, maintenant la loi a-t-elle un talon, dis-je, pour être meurtri. » Alors Rhys Jones et toute sa compagnie furent arrêtés, et je fus poussé, dans la puissance du Seigneur, à dire, « Cette semence, Christ Jésus, la semence de la femme, qui doit écraser la tête du serpent, écrasera votre tête et vous brisera tous en morceaux. » Ainsi je laissai sur leur tête la semence Christ, et peu après, lui et sa compagnie se dispersèrent en morceaux. Plusieurs d'entre eux devinrent des amis et le sont encore aujourd'hui. Beaucoup avaient été convaincus environ 8 ans auparavant, mais avaient été détournés par ce Rhys Jones, car ils niaient la croix intérieure, la puissance de Dieu, et ainsi tombèrent dans la vanité. Cela faisait environ 8 ans que j'avais été parmi eux. Pendant ce temps, il me fallait passer au-dessus d'eux et par eux, voyant qu'ils avaient méprisé la vérité et la puissance du Seigneur, et la visitation de son amour envers eux. Mais maintenant était le moment où j'étais poussé à aller vers eux de nouveau, et ce fut d'un grand service, car beaucoup furent amenés au Seigneur Jésus-Christ et furent affermis sur lui, s'asseyant sous son enseignement et sa nourriture, où ils furent gardés frais et verts, et les autres, qui ne voulurent pas être rassemblés à lui, se flétrirent peu après. C'était ce Rhys Jones qui, quelques années auparavant, avait dit « J'étais alors au plus haut, et je tomberai, mais le pauvre homme ne pensait guère à quel point sa propre chute était proche. Nous quittâmes Nottingham et allâmes dans le Warwickshire, le Northamptonshire et le Leicestershire, visitant les amis et tenant des réunions en chemin. Nous arrivâmes dans le Bedfordshire, où nous eûmes de grands rassemblements au nom de Jésus. Après quelque temps, nous vîmes chez John Crook, où une assemblée générale annuelle pour toute la nation devait se tenir. Cette réunion dura 3 jours, et beaucoup d'amis de la plupart des régions du pays y vinrent, de sorte que les auberges et les villes des environs furent pleines, car plusieurs milliers de personnes y assistaient. Et bien qu'il y eût quelques troubles causés par quelques gens grossiers qui s'étaient détournés de la vérité, la puissance du Seigneur vint sur tout, et ce fut une réunion glorieuse. L'Évangile éternel fut prêché, et beaucoup le reçurent, car toutes sortes de prophètes s'en vinrent à la réunion. Cet Évangile fit briller en eux la vie et l'immortalité, et resplendit sur tous. Je fus poussé par la puissance et l'Esprit du Seigneur à leur ouvrir la promesse de Dieu, qu'elle fut faite à la semence, non à des semences comme à plusieurs, mais à une seule, laquelle semence était le Christ, et que tous les peuples, hommes et femmes, devaient sentir en eux cette semence héritière de la promesse, afin qu'ils puissent tous rendre témoignage au Christ en eux espérance de gloire, mystère caché aux siècles et aux générations révélé aux apôtres, et de nouveau révélé maintenant, après la longue nuit d'apostasie. Ainsi tous pourraient s'élever dans cette semence, Christ Jésus, y marcher, et s'asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, qui fut le fondement des prophètes et des apôtres, le rocher des siècles, et qui est notre fondement maintenant. Tous ceux qui s'asseyent en lui s'asseyent dans la substance, le premier et le dernier, qui ne change pas, la semence qui écrase la tête du serpent, qui était avant lui, qui met fin à tous les types, figures et ombres, et en est la substance, en qui il n'y a aucune ombre. Or ces choses m'étaient données à ouvrir à tous, afin qu'ils prennent garde et voient en quoi ils sont assis. Premièrement, ceux qui s'asseyent en Adam dans la chute s'asseyent dans la misère, dans la mort, dans les ténèbres et la corruption. Deuxièmement, ceux qui s'asseyent dans les types, figures et ombres, et sous le premier sacerdoce, la loi et l'alliance, s'asseyent dans ce qui doit avoir une fin et qui n'a rien rendu parfait. Troisièmement, ceux qui s'asseyent dans l'apostasie, qui s'est élevée depuis les jours des apôtres, s'asseyent dans la Sodome et l'Égypte spirituelle, et boivent la coupe de la prostituée, sous le pouvoir de la bête et du dragon. Quatrièmement, ceux qui s'asseyent dans l'état où Adam était avant de tomber s'asseyent dans ce dont on peut tomber, car il tomba de cet état, bien qu'il fût parfait. Cinquièmement, ceux qui s'asseyent dans les prophètes s'asseyent dans ce qui doit être accompli, et ceux qui s'asseyent dans la communion de l'eau, du pain et du vin, ces choses étant temporelles, s'asseyent dans ce qui est en deçà du Christ et de son baptême. Sixièmement, s'asseoir dans une profession de toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, sans être dans la puissance et l'esprit qui étaient en ceux qui les ont donnés. Voilà ce dont il faut se détourner, par ceux qui sont venus dans la puissance et l'esprit qui étaient en ceux qui ont donné les Écritures. Septièmement, ceux qui s'asseyent dans les lieux célestes en Christ Jésus s'asseyent en celui qui n'est jamais tombé ni jamais changé. Voilà l'assise sûre pour tous ses élus, son Église, ses membres spirituels, dont il est la tête vivante, ses pierres vivantes, la maison de la foi, dont il est la pierre angulaire qui tient et demeure par tous les temps. Car, disait l'apôtre, il nous a rendus à la vie, nous qui étions morts par nos offenses et nos péchés, etc., et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que, dans les siècles à venir, il montre l'extraordinaire richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Or, les siècles sont venus, où sa bonté et l'extraordinaire richesse envers nous par Jésus-Christ se manifestent véritablement en nous, comme au jour des apôtres, en nous-mêmes qui avons été morts dans les péchés et les offenses comme eux, mais qui maintenant sommes vivifiés et faits asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, le premier et le dernier par qui toutes choses ont été créées, qui est monté au-dessus de tout, et est sur tout, et dont la présence glorieuse est maintenant connue. Tous ceux qui s'asseyent ici, en Christ Jésus, voient où tous les autres s'asseyent, et en quoi. La promesse de Dieu étant à la semence qui est une, Christ Jésus. Chaque homme et chaque femme doit venir à rendre témoignage à cette semence, le Christ en eux, afin d'être héritier de la promesse, et en héritant cela, ils hériteront la substance. Ces choses furent largement déclarées. L'état de l'Église et l'état de la fausse Église depuis les jours des apôtres furent ouverts, et comment la vraie Église s'enfuit au désert, et l'état des faux prophètes que le Christ dit devoir venir, et que j'en vis être venu, et comment tout le monde s'égara après eux, et comment ils avaient rempli le monde de fausses doctrines, voies, cultes et religions, et comment l'Évangile éternel est maintenant de nouveau prêché à toutes nations, tribus, langues et peuples, car toute nation, tribus, langues et peuples avaient bu la coupe. Dans cette nuit d'apostasie, la religion pure et le culte en esprit, tel qu'au jour des apôtres, la voix de la vie et la foi vivante, ainsi que la puissance et le Saint-Esprit, furent perdus. Mais maintenant ils venaient à être rétablis par Christ Jésus, ses messagers et ministres de l'Évangile, comme au jour des apôtres. Car de même que le Christ envoya ses disciples prêcher l'Évangile dans le monde entier, puis que les faux prophètes et les antéchrists parcoururent le monde en prêchant leurs fausses doctrines et traditions, ainsi que des rudiments païens et juifs, de même maintenant encore l'Évangile éternel doit être prêché à toute nation et à toute créature, afin qu'elles viennent à la religion pure, à adorer Dieu en esprit et en vérité, et à connaître Christ Jésus leur voie vers Dieu, et à le connaître comme l'auteur de leur foi, et à recevoir l'Évangile. Après que ces choses eurent été largement ouvertes, avec beaucoup d'autres concernant Christ Jésus et son royaume, et que le peuple eût été tourné vers la lumière divine du Christ et son esprit, par lesquels il pouvait venir à connaître Dieu et le Christ, les Écritures, et à avoir communion avec les uns avec les autres dans le même esprit, je fus poussé à déclarer et ouvrir encore plusieurs choses à ses amis qui avaient reçu une part du ministère, concernant l'exercice de leurs dons spirituels dans l'Église, lesquels, ayant été pris. Amis, prenez garde de détruire ce que vous avez engendré, car ce qui détruit s'en va, et est rejeté. Et bien que cela soit vrai, oui, et que ce puisse être la pure vérité que celui-ci dit, pourtant, s'il ne demeure pas en cela et ne vit pas en cela pour lui-même, mais qu'il s'en écarte, ce même dont il s'est écarté vient sur lui. Ainsi ce qui apaise et refroidit les esprits passe sur le monde, et conduit au Père pour hériter la vie éternelle, et atteint les esprits en prison en tout. C'est pourquoi demeurez dans la parole vivante et immuable du Seigneur Dieu, et dans la renommée de celle-ci, et demeurez sur le fondement qui est pur et sûr, car quiconque sort du pur et ne ministre pas en est depuis celui-ci, vient à une fin et ne demeure pas, même s'il a pu avoir un temps, et avoir été utile pendant un temps, tant qu'il vivait dans la chose. Et prenez garde à la multitude de paroles, ce qui atteint la vie s'établit dans la vie. Ce qui vient de la vie, et est reçu de Dieu, atteint la vie et établit les autres dans la vie. L'œuvre n'est pas maintenant comme elle était au commencement, l'œuvre est maintenant de s'établir et de demeurer dans la vie. Car comme les amis ont été conduits à servir dans la puissance, et que la puissance a pénétré, de sorte qu'une compréhension a grandi parmi les gens du monde comme parmi les amis doivent être gardés dans la vie qui est pure, afin qu'avec elle ils puissent répondre à la vie pure de Dieu en autrui. Car si les amis ne vivent pas dans la vie pure dont ils parlent, pour répondre à la vie en ceux à qui ils parlent, l'autre part intervient, et alors se lève une connaissance extérieure, et il laisse cela venir sur lui. Mais tant que chacun est gardé vivant dans la vie de Dieu, au-dessus de tout ce qui est contraire, chacun est à sa place. Alors il n'imposant pas les mains à quelqu'un à la légère, ce qui est le danger maintenant, car si quelqu'un le fait, il peut perdre son discernement, imposer les mains sur la mauvaise part, et ainsi laisser la tromperie s'approcher trop près de lui, et la tromperie se glissera, de sorte qu'il lui sera difficile de la rabaisser. Nul ne frappe ses compagnons de service sans s'être d'abord écarté du pur en lui-même, car lorsqu'il s'écarte de la lumière dont il est éclairé, alors il frappe, et alors il a sa récompense, la lumière dont il s'est écarté, le Christ, vient et lui donne sa récompense. Tel est l'état des mauvais serviteurs. Les violents, les pressés et les téméraires n'engendrent rien pour Dieu, mais la vie qui atteint la vie est ce qui engendre pour Dieu. Lorsque tous sont établis dans la vie, ils sont dans ce qui demeure à jamais, et ce qui est reçu du Seigneur, et ce que l'on reçoit du Seigneur, on le garde. Ainsi il demeure tranquille, frais et paisible dans son propre esprit, et le donne au dehors lorsqu'il est mu, mais pour les prostituées il y a jugement. Ainsi, amis, voici la parole du Seigneur pour vous tous. Veillez et soyez prudents dans toutes les réunions où vous entrez, car lorsque les amis sont assis ensemble en silence, ils sont bien souvent rassemblés dans leur propre mesure. Or, lorsqu'un homme vient à peine de sortir du monde, après avoir exercé le ministère auprès des gens du monde, il sort de la boue, et il doit alors prendre garde de ne pas être téméraire. Car lorsqu'il entre dans une réunion silencieuse, c'est un autre état, il doit alors venir et sentir son propre esprit, voir comment il est lorsqu'il vient vers ceux qui sont assis en silence. S'il est téméraire, ils le jugeront, estimant qu'ayant été dans le monde et parmi le monde, la chaleur ne s'est pas encore retirée de lui. Car il peut venir du monde avec la chaleur de son esprit, tandis que les autres sont calmes et frais, et sa condition, n'étant pas accordée à la leur, peut plutôt leur nuire, en les tirant de l'état frais vers l'état échauffé, s'il n'est pas dans ce qui commande son propre esprit et lui donne de le connaître. Il y a aussi un grand danger à voyager au loin dans le monde. La même puissance qui pousse quelqu'un à partir doit le garder. Car il n'y a pas de plus grand danger à s'en aller au loin, à moins qu'un homme ne soit mu par le Seigneur et n'aille dans la puissance du Seigneur. Car alors, demeurant dans la puissance, il est gardé par elle dans son voyage et dans son œuvre, et elle lui permettra de répondre aux transgresseurs et de demeurer au-dessus de lui. Chacun ressentant, pour lui-même, le danger de voyager au loin, la pure crainte du Seigneur y sera placée et y demeurera. Bien que ceux qui voyagent puissent avoir des ouvertures lorsqu'ils sont au loin, pour servir les autres, pourtant pour leur propre croissance, ils doivent demeurer dans la vie qui ouvre, et cela maintiendra bas ceux qui voudraient se vanter. Car le ministre descend dans la mort, vers ce qui est dans la mort et en prison, puis remonte de nouveau dans la vie, dans la puissance et dans la sagesse pour le préserver pur. Voici la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, sentez que vous vous tenez en la présence du Seigneur, car la parole de chaque homme sera son fardeau, mais la parole du Seigneur est pure et répond au pur en chacun. La parole du Seigneur est celle qui était au commencement et ramène au commencement. Elle est un marteau pour abattre le transgresseur, non le transgressé, et comme un feu pour consumer ce qui lui est contraire. Ainsi, amis, entrez dans ce qui est au-dessus de tous les esprits du monde, sonde tous les esprits du monde, et demeure dans la patience, par cela vous pourrez voir où les autres se tiennent, et atteindre ce qui est de Dieu en chacun. Ici, point de créel, point de contestation, hors de la transgression, car celui qui entre dans la créel et la contestation est hors de l'esprit pur. Car là où quelqu'un entre dans la contestation, si quelque chose a été planté auparavant par lui, la nature crêleuse prend le dessus, gâtant ce qui a été planté et éteignant sa propre prophétie. Ainsi, si la nature en l'homme qui tente à la dispute n'est pas d'abord soumise par la puissance de Dieu, la dispute s'élèvera, conduisant à un état dangereux. Si quelqu'un a un mouvement de l'esprit pour aller quelque part, après avoir dit ce que le Seigneur l'a mû à dire, qu'il retourne à son habitation et vive dans la vie pure de Dieu, et dans la crainte du Seigneur, ainsi serez-vous gardés dans la vie, dans un esprit solide et assagi, et vous prêcherez autant par la vie que par les paroles, car nul ne doit être léger ni sauvage. Car la semence de Dieu a du poids, rend solide, et conduit dans la sagesse de Dieu, par laquelle la sagesse de la création est connue. Mais si cette part qui court dans les imaginations est élevée, et que cette part où les imaginations se lèvent demeure debout, et que l'esprit pur n'est pas pleinement venu pour gouverner et régner, alors sortira ce qui se glorifie, se vante et s'éteint, et ainsi un tel gâtera ce qui s'était ouvert à lui, et cela est pour condamnation. Que chacun prenne garde à ce qui traverse et commande son esprit, afin que chacun sache de quel esprit il est, car il doit d'abord éprouver son propre esprit, puis il peut éprouver les autres, il doit d'abord connaître son propre esprit, puis il peut connaître les autres. C'est pourquoi ce qui commande tous ces esprits, là où les chaleurs et les ardeurs entrent et se lèvent, attend des Y, cela les enchaîne et les refroidit, c'est l'élu, l'héritier de la promesse de Dieu. Car aucun esprit pressé, téméraire, cassant même avec des prophéties n'a tenu bon ni traversé, n'étant pas soumis dans la prophétie. Le terrestre ne demeurera pas car il est cassant, et dans cet état, le ministère était celui d'un autre, non du Fils, car le Fils a la vie en lui-même, et le Fils a la puissance à laquelle l'homme, étant obéissant, peut être utile, mais s'il s'écarte de la puissance pure, il tombe et en abuse. Que votre foi donc demeure dans la puissance pure du Seigneur Dieu, et n'en abusez pas, mais que celle-ci sonde et agisse, et que chacun demeure dans la puissance du Seigneur Dieu, qui atteint la semence de Dieu, héritière de la promesse de vie sans fin. Et que nul ne soit prompt à parler, car vous avez assez de temps, et d'un regard vous pouvez atteindre le témoignage, et que nul ne soit en retrait lorsque vous êtes mu, car cela apporte la destruction. La vérité a un honneur dans le cœur des gens qui ne sont pas des amis. Ainsi tous les amis étant gardés dans la vérité, ils sont gardés dans l'honneur, ils sont honorables car cela les honorera. Mais si quelqu'un perd la puissance, perd la vie, il perd sa couronne, il perd son honneur, il perd la croix qui doit le crucifier, et il crucifie le juste. Et en perdant la puissance, l'agneau en vient à être immolé. Et comme cela est ici, ainsi en sera-t-il dans d'autres nations, car tous les amis, ici et là, sont comme une seule famille, la semence, les plantes sont comme une famille. Tous étant gardés dans ce qui soumet tout et tient tout sous, à savoir la semence elle-même, la vie elle-même, qui est l'héritier de la promesse, et c'est là le lien de la paix, car là est l'unité dans l'esprit avec Dieu et les uns avec les autres. Celui qui est gardé dans la vie entend Dieu, et voit la condition de l'homme, et par là il répond à la vie en d'autres qui entendent Dieu aussi, ainsi un ami qui entre en cela embrasse le monde. Mais ce que les amis disent, ils doivent le vivre, ainsi peuvent-ils espérer que d'autres viennent dans ce dont ils parlent, pour vivre dans la même chose, car la puissance du Seigneur Dieu a été abusée par certains, et la valeur de la vérité n'a pas été prise en considération, il y a eu piétinement et dégradation au pied, et cela abuse la puissance. Mais maintenant chaque ami doit se tenir dans la puissance et y prendre garde, car ce qui voudrait piétiner et gâter doit être tenu bas, et la vie et la puissance pure de Dieu doivent être vécues au-dessus de cela, afin que nul ne salisse ou n'abîme avec les pieds, mais que chacun soit gardé dans la puissance et la vie pure du Seigneur. Alors l'eau de la vie entre, alors celui qui sert boit lui-même, et fait boire les autres, Or, quand quelqu'un sera mû à aller parler dans une église ou au marché, tournez-vous vers ce qui vous meut, et obéissez-y, afin que ce qui ne voudrait pas aller soit tenu bas, car ce qui ne veut pas aller plaidera pour prendre le contrôle. Et prenez garde, d'autre part, que la part qui embellit ne se lève pas, car c'est une mauvaise odeur, elle doit donc être tenue basse et soumise. Attendez donc dans la lumière du Seigneur, afin d'être tous gardés dans la sagesse de Dieu. Car lorsque la semence est levée en chaque particulier, il n'y a pas de danger, mais lorsqu'il y a une ouverture et une prophétie, et que la puissance s'émeut avant que la semence ne se lève, il y a quelque chose qui sera enclin à se répandre témérairement. Là est le danger, et là vous devez être patient dans la crainte. Car c'est une chose de poids que d'être dans l'œuvre du ministère du Seigneur Dieu, et de s'y engager. Ce n'est pas comme une prédication habituelle, c'est pour amener les gens à la fin de toute prédication extérieure. Car lorsque vous avez déclaré la vérité au peuple et qu'ils l'ont reçue, et sont venus dans ce dont vous avez parlé, proférez beaucoup de paroles et de longues déclarations, hors de la vie peut les engendrer dans une forme. Et si quelqu'un se remettait témérairement à courir dans les paroles, sans la saveur de la vie, ceux qui sont venus dans la chose dont il parlait le jugeront, par quoi il peut de nouveau nuire à ce qu'il avait auparavant relevé. Ainsi, amis, vous devez tous venir dans la chose qui est dite dans les ouvertures de la vie céleste parmi vous, et marcher dans l'amour de Dieu, afin de répondre à la chose dont il est parlé. Et prenez garde de vous jeter dans des affections déréglées, car lorsque les gens en viennent à vous reconnaître, il y a danger que la mauvaise part se lève. Il y eut de la dispute parmi les disciples du Christ, à savoir qui serait le plus grand. Le Christ leur dit, « Les païens exercent la seigneurie et dominent les uns sur les autres, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, car le Christ, la semence, devait se lever en chacun d'eux, alors où est le plus grand. » Cette part des disciples, qui voulait être la plus grande, était la même que celle qui était chez les gentils. Mais celui qui vient à vivre dans la parole qui le sanctifie, ayant le cœur sanctifié, la langue et les lèvres sanctifiées, vivant dans la parole de sagesse qui purifie le cœur et réconcilie avec Dieu, toute chose étant soutenue par la parole et la puissance. Comme il y a une demeure dans la parole de Dieu qui soutient les temps et les saisons et donne accroissement à toute chose, ici demeurant dans la parole de sagesse, s'ils ne sont que deux ou trois d'accord en cela sur la terre, cela leur sera accordé dans le ciel. Ainsi en cela toutes choses doivent être ordonnées par la parole de sagesse et de puissance, qui soutient toutes choses, les temps et les saisons, qui sont dans les mains du Père, à la gloire de Dieu, afin que sa bénédiction soit ressentie parmi vous, et cela ramène au commencement. Voici la parole du Seigneur Dieu pour vous tous. Tenez bas, restez humbles, afin que rien ne règne et ne domine en vous, sinon la vie elle-même. Or, lorsque la puissance est vécue, la croix est vécue, et partout où les amis viennent ainsi, ils entraînent la puissance et la vie, ils laissent derrière eux un témoignage, répondant au témoignage de Dieu en d'autres. Et là où cela est vécu, il n'y a manque ni de sagesse, ni de puissance, ni de connaissance, mais celui qui sert en cela voit, avec l'œil que le Seigneur ouvre en lui, ce qui est pour le feu, et ce qui est pour l'épée, ce qui doit être nourri par le jugement, et ce qui doit être entretenu. Cela abaisse tout et rend humble, chacun s'en tenant à la puissance, car si un homme s'élève aussi haut que ce soit, il doit redescendre à la puissance qu'il a quittée, ce dont il s'est écarté, il doit y redescendre. Ainsi maintenant, avant que tous ces esprits mauvais puissent être abattus, qui errent au dehors, les amis doivent avoir patience et attendre dans la patience, dans la vie fraîche. Et celui qui, dans la patience, fait l'œuvre du Seigneur est celui qui goûte et sent la puissance et l'autorité de l'agneau. Ainsi tous les amis, demeurez frais et paisibles dans la puissance du Seigneur Dieu, et tout ce qui est contraire sera soumis, de sorte que l'agneau a la victoire dans la semence par la patience. Si quelqu'un a été mû à parler et a étouffé ce qui le mouvait, qu'aucun de cela ne se remette ensuite à parler jusqu'à ce qu'il sente la puissance se lever et le mouvoir à y retourner. Car après que le premier mouvement a été étouffé, l'autre part sera encline à se lever. Et si quelqu'un s'avance en cela, il s'avance de lui-même, et le traître entrera là-dedans. Et tous les amis, soyez attentifs à ne pas vous mêler des pouvoirs de la terre, mais tenez-vous à l'écart de toutes ces choses, et en demeurant dans l'autorité de l'agneau, vous répondrez à ce qui est de Dieu en eux, et vous les amènerez à faire justice, qui est la fin de la loi. Gardez-vous de toute dispute, car tous ceux qui sont dans la transgression sont hors de la loi d'amour, mais tous ceux qui sont dans la loi d'amour viennent à la puissance de l'agneau, à l'autorité de l'agneau, lui qui est la fin de la loi extérieure. Car la loi ayant été ajoutée à cause de la transgression, le Christ, qui était glorifié avec le Père avant que le monde fût, est la fin de la loi, amenant ceux qui vivent dans la loi de vie à vivre au-dessus de toute transgression, ce que chaque particulier doit sentir en lui-même. Il fut encore dit davantage sur nombre de ces points, mais cela ne fut pas pris au long tel que délivré. Après que cette réunion fut terminée et que la plupart des amis furent partis, comme je me promenais dans le jardin de John Crook, un détachement de cavaliers avec un constable vint pour me saisir. Je les entendis demander « Qui est dans la maison ?» Quelqu'un répondit « J'y suis ». Et ils dirent que « J'étais l'homme qu'ils cherchaient » et entrèrent dans la maison, où ils eurent beaucoup de paroles avec John Crook et quelques amis qui étaient avec lui. Mais la puissance du Seigneur les confondit tellement qu'ils ne vinrent pas dans le jardin pour me chercher. Ils s'en allèrent furieux. Quand j'entrai dans la maison, les amis furent très heureux de les voir ainsi confondus et que je leur ai échappé. Le lendemain, je partis de là, et après avoir visité des amis en divers endroits, je vins à Londres, la puissance du Seigneur m'accompagnant et me soutenant dans son service. Je n'étais pas depuis longtemps à Londres, lorsque j'appris qu'un jésuite, venu avec un ambassadeur d'Espagne, avait défié tous les Quakers de disputer avec lui chez le comte de Newport, sur quoi quelques amis lui firent savoir que certains le rencontreraient. Il nous fit alors dire qu'il rencontrerait 12 des hommes les plus sages et les plus savants que nous ayons. Peu après, il nous fit dire qu'il n'en verrait que 6, ensuite il nous fit dire de nouveau qu'il n'en voulait que 3. Nous nous hâtâmes autant que nous pûmes, de peur qu'en dépit de sa grande fanfaronnade il ne se dédie à la fin. Quand nous fûmes arrivés à la maison, je demandai à Nicholas Bond et Edward Burroughs de monter et d'entrer en discussion avec lui, et moi je marcherais un moment dans la cour, puis je monterais après eux. Je leur conseillai de lui poser cette question. L'église de Rome, telle qu'elle se trouvait alors, n'a-t-elle pas dégénéré de la véritable église des temps primitifs, de sa vie et de sa doctrine, ainsi que de la puissance et de l'esprit qui étaient les siens? Ils posèrent donc la question, et le jésuite affirma que l'église de Rome était alors dans la virginité et la pureté de l'église primitive, entre-temps je les avais rejoints. Alors nous lui demandâmes, ont-ils le Saint-Esprit répandu sur eux, comme les apôtres l'avaient? Il dit, non. Alors dis-je, si vous n'avez pas le même Saint-Esprit répandu sur vous, et la même puissance et le même esprit que les apôtres, vous avez dégénéré de la puissance et de l'esprit dans lesquels était l'église primitive. Il y avait peu à ajouter à cela. Je lui demandai ensuite, quelle écriture ont-ils pour établir des cloîtres pour des nonnes, des abbayes et des monastères pour des hommes, pour tous leurs divers ordres, pour prier avec des chapelets et devant des images, pour faire des croix, pour interdire des viandes et des mariages, et pour mettre à mort des gens pour cause de religion. Si, dis-je, vous êtes dans la pratique de l'Église primitive, dans sa pureté et sa virginité, alors qu'on nous montre par les Écritures qu'ils aient jamais pratiqué de telles choses, car il avait été convenu entre les deux parties que nous justifierions par les Écritures ce que nous dirions. Il nous parla alors d'une parole écrite et d'une parole non écrite. Je lui demandai ce qu'il appelait sa parole non écrite. Il dit, la parole écrite, ce sont les Écritures, et la parole non écrite, c'est ce que les apôtres ont dit de vive voix. Ce sont, dit-il, toutes ces traditions que nous pratiquons. Je lui demandai de le prouver par l'Écriture. Alors il cita ce passage où l'apôtre dit, 2:5, « Quand j'étais avec vous, je vous ai dit ces choses. » C'est-à-dire, dit-il, je vous ai parlé des couvents de nonnes et des monastères, et de mettre à mort pour la religion, et de prier avec des chapelets, et devant des images, et de toutes les autres pratiques de l'Église de Rome, lesquelles, dit-il, étaient la parole non écrite des apôtres, qu'ils dirent alors, et qui depuis ont été transmises par tradition jusqu'à nos jours. Je le priai alors de relire ce passage, afin qu'il voie combien il avait perverti les paroles de l'apôtre, car ce que l'apôtre dit là aux Thessalonians, qu'il le leur avait dit auparavant n'est pas une parole non écrite, mais c'est là écrit, à savoir que l'homme de péché, le fils de perdition, sera révélé avant le grand et terrible jour du Christ dont il écrivait ne vienne. Ainsi il ne leur parlait nullement de ces choses que pratique l'Église de Rome. De même l'apôtre, au troisième chapitre de cet épître, parle à l'Église de certaines personnes indisciplinées qu'il avait entendu être parmi eux, des gens qui se mêlaient de tout ne travaillant point. À leur sujet il leur avait commandé par sa parole non écrite, lorsqu'il était parmi eux que si quelqu'un ne voulait pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, ce qu'il leur commande maintenant de nouveau par sa parole écrite dans cet épître. 2:3-10. Ainsi ce passage ne fournissait aucune preuve pour leur tradition inventée, et ils n'avaient aucune autre preuve scripturaire à offrir. Je lui dis donc, voilà une autre dégénérescence de leur Église, tombée dans de telles inventions et traditions que les apôtres et les saints primitifs n'ont jamais pratiquées. Après cela le jésuite commença à parler de la communion en vin à son sacrement de l'autel, partant de l'agneau pascal et des pains de proposition, et arriva aux paroles du Christ, « Ceci est mon corps », puis à ce que l'apôtre en écrivit aux Corinthiens, concluant qu'après que le prêtre avait consacré le pain et le vin, il devenait immortel et divin, et que celui qui les recevait recevait le Christ tout entier. Je le suivis à travers les Écritures qu'il apportait, jusqu'aux paroles du Christ et de l'apôtre. Je lui montrai que ce même apôtre disait aux Corinthiens, après qu'ils avaient pris le pain et le vin en mémoire de la mort du Christ, qu'ils étaient des réprouvés, le péché vit encore en eux si le Christ n'est pas en eux. Mais si le pain qu'ils mangeaient était le Christ, ils devaient nécessairement être en eux après l'avoir mangé, ce qui, s'ils sont réprouvés, est impossible, preuve 1. De plus, si ce pain et ce vin que les Corinthiens mangeaient et buvaient étaient le corps du Christ, alors comment le Christ a-t-il un corps au ciel, preuve 2. Je lui fis encore observer que les disciples au repas, et les Corinthiens ensuite, devaient manger le pain et boire le vin, en mémoire du Christ, et annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne, ce qui prouve clairement que le pain et le vin qu'il prenait n'étaient pas son corps. Car si c'eût été son vrai corps qu'il mangeait, alors il serait déjà venu et aurait été là présent. Et il eût été impropre de faire une telle chose en mémoire de lui, s'il eût été alors présent avec eux, comme il aurait dû l'être si ce pain et ce vin qu'il mangeait et buvait avaient été son vrai corps. Preuve 3. Quant à ces paroles du Christ, « Ceci est mon corps, je lui dis, le Christ s'appelle lui-même une vigne et une porte, et il est appelé dans l'Écriture un rocher. Le Christ est-il donc un rocher, une porte ou une vie extérieure ?»« Oh, dit le Jésuite, ces paroles doivent être interprétées. De même, dis-je, ces paroles du Christ, ceci est mon corps. » Preuve 4. L'ayant réduit au silence quant à l'argumentation, je fis au Jésuite cette proposition. « Puisque vous dites que le pain et le vin sont immortels et divins, et le Christ même, et que quiconque les reçoit reçoit le Christ tout entier, qu'on fixe une rencontre entre quelques personnes que le pape et ses cardinaux désigneront et quelques-uns d'entre nous, qu'on apporte une bouteille de vin et une miche de pain, qu'on les divise chacun en deux, et qu'ils consacrent l'une des parts celles qu'ils voudront. Ensuite, qu'on place le pain et le vin consacrés et non consacrés en un lieu sûr, avec une garde fiable, et qu'on fasse ainsi l'épreuve pour voir si le pain et le vin consacrés ne perdraient pas leur bonté, si le pain ne deviendrait pas sec et moisi, et si le vin ne tournerait pas, devenant plat et aigre, tout aussi bien et tout aussi vite que ce qui n'a pas été consacré. Par ce moyen, dis-je, la vérité de la chose pourra être rendue manifeste. Et si le pain et le vin consacrés ne changent pas, mais conservent leur saveur et leur bonté, cela pourra être un moyen d'attirer beaucoup de gens à votre Église. Mais s'ils changent, se gâtent et perdent leur bonté, alors vous devez confesser et abandonner votre erreur, et ne plus verser de sang à ce sujet, car beaucoup de sang a été versé à cause de ces choses, comme au temps de la reine Marie. À cela le Jésuite répondit, « Prenez un morceau d'étoffe neuve, coupez-le en deux, faites-en deux vêtements, mettez-en un sur le dos du roi David et l'autre sur celui d'un mendiant, et l'un s'usera tout comme l'autre. » Je lui demandai, « Est-ce là votre réponse ?»« Oui, dit-il. » Alors, dis-je, par là toute l'assemblée peut être satisfaite que votre pain et votre vin consacrés ne sont pas le Christ. Preuve 5. Avez-vous dit si longtemps aux gens que le pain et le vin consacrés étaient immortels et divins, et le corps et le sang même est réel du Christ, et dites-vous maintenant qu'ils s'useront ou se dégraderont comme l'autre? Je dois vous dire, le Christ demeure le même aujourd'hui qu'hier, et ne se dégrade jamais, mais il est la nourriture céleste des saints en toute génération, par laquelle ils ont la vie. Il ne répondit plus à cela, voulant laisser tomber, car les personnes présentes virent son erreur et qu'il ne pouvait la défendre. Je lui demandai ensuite, pourquoi l'Église persécute-t-elle et met-elle à mort des gens pour la religion? Il répondit, « Ce n'est pas l'Église qui le fait, mais les magistrats. » Je lui demandai, « Ces magistrats ne sont-ils pas tenus et appelés croyants et chrétiens? » Il dit, « Oui. »« Eh bien, dis-je, ne sont-ils pas membres de votre Église? » « Oui, dit-il. » Alors je laissai les gens juger, d'après ses propres concessions, si l'Église de Rome ne persécute pas et ne met pas à mort des gens pour la religion. Ainsi nous nous séparâmes, et sa subtilité fut confondue par la simplicité. Pendant le temps que je fus à Londres, on me demanda beaucoup de services, car c'était un temps de grande souffrance. Je fus poussé à écrire à Oliver Cromwell et à lui exposer les souffrances des amis, tant dans cette nation qu'en Irlande. On parlait aussi alors de faire Cromwell roi, sur quoi je fus poussé à aller le voir et à l'avertir de ne pas l'accepter, et de plusieurs dangers, lesquels, s'il ne les évitait pas, je lui dis qu'il attirerait sur lui et sur sa postérité la honte et la ruine. Il sembla bien prendre ce que je lui disais et me remercia. Cependant, par la suite, je fus poussé à lui écrire plus pleinement à ce sujet. Vers ce temps, Lady Claypool, comme on l'appelait, était malade et fort troublée dans son esprit, et ne pouvait recevoir aucun réconfort de quiconque venait la voir. Ce dont ayant entendu parler, je fus poussé à lui écrire la lettre suivante, « Ami, demeure tranquille et apaisé dans ton propre esprit et ton propre cœur, loin de tes propres pensées, alors tu sentiras le principe de Dieu tourner ton esprit vers le Seigneur Dieu de qui vient la vie, par quoi tu pourras recevoir sa force et sa puissance pour calmer tous les tumultes. C'est cela qui fait croître en patience, en innocence, en sobriété, en calme, en constance, en quiétude jusqu'à Dieu, avec sa puissance. Prends donc garde, telle est pour toi la parole du Seigneur, afin que tu puisses sentir l'autorité de Dieu, et ta foi en elle, pour abattre ce qui te trouble. Car c'est elle qui garde la paix et fait s'élever en toi le témoin qui a été transgressé, pour chercher Dieu par sa puissance et sa vie, lui qui est un Dieu d'ordre et de paix. Quand, dans ton cas particulier, tu es dans la transgression de la vie de Dieu, l'esprit s'envole en l'air, la créature est conduite dans la nuit, la nature sort de sa voie, un vieux vêtement revêt et une parure de dessus. Et ta nature, étant menée hors de son cours, en vient à être tout en feu dans la transgression, et cela ternit la gloire du premier corps. Sois donc un moment tranquille, loin de tes propres pensées, recherches, quêtes, désirs et imaginations, et demeure établi dans le principe de Dieu en toi, afin qu'il élève ton esprit vers Dieu et l'y affermisse, et tu trouveras en lui la force, et tu le trouveras comme un Dieu proche, un secours présent au temps de la détresse et du besoin. Et toi étant venu au principe de Dieu, qui a été transgressé, il te gardera humble, et le Dieu des humbles enseignera sa voix, qui est paix et il les élève. Or, puisque le principe de Dieu en toi a été transgressé, viens-y, afin qu'il maintienne ton esprit abaissé devant le Seigneur Dieu, pour te renier toi-même, et ton propre vouloir, qui est terrestre, et dont tu dois être préservé. Alors tu sentiras la puissance de Dieu, qui ramènera la nature dans son cours, et te fera voir la gloire du premier corps. Là, la sagesse de Dieu sera reçue, qui est Christ, par qui toutes choses ont été faites et créées, et tu seras ainsi préservé et ordonné à la gloire de Dieu. Là, tu en viendras à recevoir et à sentir le médecin précieux, qui revêt les gens de leur bon sens, afin qu'ils puissent servir Dieu et faire sa volonté. Car toute distraction, indocilité et confusion sont dans la transgression, et cette transgression doit être abaissée avant que le principe de Dieu, contre lequel on a transgressé, soit relevé, afin que l'esprit soit assaisonné et apaisé et qu'une juste intelligence du Seigneur soit reçue, par quoi ses bénédictions entrent et se font sentir sur tout ce qui est contraire dans la puissance du Seigneur Dieu, qui relève le principe de Dieu au-dedans, donne une aspiration vers Dieu, et avec le temps donne la domination. Demeure dans la crainte du Seigneur Dieu, telle est pour toi la parole du Seigneur, car toutes ces choses t'arrivent pour ton bien, et pour le bien de ceux qui se soucient de toi, afin de te faire te connaître toi-même et ta faiblesse, et afin que tu connaisses la force et la puissance du Seigneur, et que tu mettes ta confiance en lui. Que le temps passé suffise à chacun qui, en quoi que ce soit, s'est élevé dans la transgression hors de la puissance du Seigneur, car il peut abaisser et humilier les puissants, et les coucher dans la poussière de la terre. Ainsi que tous demeurent bas dans sa crainte, afin de recevoir les secrets de Dieu et sa sagesse, de connaître l'ombre du Tout-Puissant, et de s'asseoir sous elle dans toute tempête, orage et ardeur, car Dieu est un Dieu proche, et le trésor règne sur les enfants des hommes. Ceci est la parole du Seigneur Dieu pour vous tous, ce que la lumière met en évidence et découvre, comme les tentations, distractions, confusions, ne regardez pas les tentations, confusions, corruptions, mais regardez la lumière qui les découvre et les rend manifestes, et avec cette même lumière vous pourrez vous tenir au-dessus d'elle et recevoir la puissance de leur résister. Cette même lumière qui vous fait voir le péché et la transgression, vous fera voir aussi l'alliance de Dieu, qui efface votre péché et votre transgression, qui donne la victoire et la domination sur eux, et introduit dans l'alliance avec Dieu. Car en regardant en bas le péché, la corruption et la distraction, vous y êtes engloutis, mais en regardant la lumière qui les découvre, vous verrez au-dessus d'eux. Cela donnera la victoire, et vous trouverez la grâce et la force, là est le premier pas vers la paix. Cela apportera le salut, et par cela vous pourrez voir jusqu'au commencement, et la gloire qui était avec le Père avant que le monde fût, et venir à connaître la semence de Dieu, qui est l'héritier de la promesse de Dieu, et du monde qui n'a pas de fin, et qui écrase la tête du serpent, qui empêche les gens de venir à Dieu. Afin que vous puissiez sentir la puissance d'une vie sans fin, la puissance de Dieu qui est immortelle, qui élève l'âme immortelle jusqu'au Dieu immortel, en qui elle se réjouit. Ainsi, au nom et dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu Tout-Puissant vous fortifie. George Fox, quand on lui lut le papier ci-dessus, elle dit que cela apaisait son esprit pour le moment. Ensuite, beaucoup d'amis en obtinrent des copies, tant en Angleterre qu'en Irlande, et les lurent à des personnes troublées dans leur esprit, et cela fut utile pour affermir l'esprit de plusieurs. Vers ce temps parut une déclaration de haut. Cromwell, le protecteur, en faveur d'une collecte pour le soulagement de diverses églises protestantes chassées de Pologne et de 20 familles protestantes chassées des confins de la Bohême. Et comme une déclaration semblable avait été publiée quelque temps auparavant pour inviter la nation à un jour de jeûne solennel et d'humiliation, afin qu'une contribution fût faite pour les protestants souffrant des vallées de Lucerne, en Grenat, etc. Persécuté par le duc de Savoie, je fus poussé à écrire aux protecteurs et aux principaux magistrats à cette occasion, tant pour leur montrer la nature d'un vrai jeûne, tel que Dieu le requiert et l'accepte, que pour leur faire sentir leur injustice et leur propre condamnation, eux qui blâmaient les papistes pour la persécution des protestants à l'étranger, tandis qu'eux-mêmes, se disant protestants, persécutaient en même temps leurs voisins protestants et les amis chez eux. Ce que je leur écrivis fut en ce sens. Aux chefs et gouvernants de cette nation, qui ont publié une déclaration pour garder un jour de jeûne solennel et d'humiliation à cause de la persécution, comme vous dites, de divers peuples au-delà des mers, professant la religion réformée, laquelle, dites-vous, leur a été transmise par leurs ancêtres. Une profession de la religion réformée peut être transmise de génération en génération, et ainsi n'être crue que par tradition. Et là où l'on tient à la profession et à la tradition, un jour de jeûne et d'humiliation n'est que dans la volonté de l'homme. Ce n'est pas là le jeûne que le Seigneur requiert, courber la tête comme un jonc pour un jour, et le lendemain se retrouver dans le même état que la veille. C'est à la lumière de Jésus-Christ dans vos consciences que je parle, elle qui témoigne pour Dieu chaque jour et rend témoignage contre tout péché et toute persécution. Et cette mesure de Dieu, si vous vous laissez guider par elle, ne limite pas Dieu à un jour, mais conduit au jeûne que le Seigneur requiert, qui est de délier les liens de la méchanceté, de défaire les fardeaux pesants, de rompre tout joug, et de renvoyer libres les opprimés. Isa 58, 6, 7. Voilà le jeûne que le Seigneur requiert, et cela ne consiste pas dans la transmission des temps, ni dans les traditions des hommes, mais cela consiste en ce qui était avant les temps, et qui conduit hors du temps, et qui sera lorsque le temps ne sera plus. Ce qui enseigne pour doctrine les commandements des hommes, ce sont ceux qui ont toujours persécuté la vie et la puissance quand elles sont venues. Et puisque vous mentionnez un décret ou édit fait contre les dits protestants persécutés, tous ces décrets ou édits procédaient du fondement de la religion et de la suprématie du pape. Là résidant sa tyrannie et sa cruauté, agit dans cette volonté qui est dans cette nature qui exerce la domination les uns sur les autres, comme vous pouvez le lire, Marc 10, 42 et Luc 22, 25, comme font tous les païens et comme ils ont toujours fait. Et dans la nature païenne se trouve toute la tyrannie et toute la persécution exercée par ceux qui ne sont pas dans l'obéissance à la lumière de Jésus-Christ dans la conscience, laquelle est le guide et le conducteur de tous ceux qui ont égard à ce qui est de Dieu dans la conscience. Mais ceux qui ne sont pas conduits par elle ne savent pas ce que c'est que souffrir pour la conscience. Or, puisque vous considérez la triste persécution, la tyrannie et la cruauté exercées contre ce que vous appelez vos frères protestants, et que vous contribuez et pourvoyez à leurs besoins extérieurement, cela est bon à sa place et nous le reconnaissons, et nous voyons bon de pourvoir aux nécessités d'autrui et de faire du bien à tous, et nous, qui souffrons sous une loi dérivée du pape, sommes prêts à nous joindre à vous et à contribuer à leurs besoins extérieurs. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient, lui qui est bon envers tous, plein de grâce envers tous, et voulant que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pendant que vous faites cela et que vous remarquez la cruauté, la tyrannie et la persécution d'autrui, tournez les yeux sur vous-même et voyez ce que vous faites chez vous. C'est à la lumière de Jésus-Christ dans toutes vos consciences que je parle, elle qui ne peut mentir, ni errer, ni porter un faux témoignage, mais qui rend témoignage pour Dieu et crie pour que l'égalité, la justice et la droiture soient mises en œuvre. Voyez ce que vous faites, vous qui professez les Écritures, lesquelles furent produites par des saints dans la lumière, qui demeuraient dans leur lumière et dans leur vie. Car ceux qui témoignent maintenant de la même lumière, de la même vie et de la même puissance qui ont donné les Écritures que vous professez en parole, cela vous les persécutez, vous les traînez hors de vos synagogues et de vos marchés, vous les battez, vous les mettez au pilori et les emprisonnez. Que ce qui est de Dieu dans vos consciences, qui est juste, droit et équitable, examine et éprouve si vous avez quelque exemple ou précédent pour exercer cette persécution sous laquelle beaucoup souffrent maintenant dans cette nation. Eux qui sont un peuple inoffensif et innocent, marchant dans l'obéissance envers Dieu et envers les hommes. Et bien que vous teniez pour hérésie la voie de vérité dans laquelle ils marchent, ils s'exercent pourtant à avoir toujours une conscience sans reproche envers Dieu et envers les hommes, comme vous pouvez lire que les saints d'autrefois le faisaient, Actes 24, 14, 16, ne faisant tort à personne, ne donnant aucun juste sujet d'offense mais seulement obéissant au commandement du Seigneur, pour déclarer selon qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit, et se tenant pour le témoignage d'une bonne conscience, disant la vérité en Christ, leur conscience leur. Voyez donc si jamais quelque âge ou génération a persécuté comme vous le faites, car vous professez Jésus-Christ, qui révèle le Père, et vous persécutez ceux qui témoignent de la révélation du Père par Jésus-Christ en eux. Vous professez Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, qui éclaire tout homme venant au monde, et pourtant vous persécutez ceux qui rendent témoignage et attestent cette lumière. Vous professez que la parole est devenue chair, et pourtant vous persécutez ceux qui en témoignent ainsi en eux. Vous professez que quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair est un antichrist, et pourtant vous persécutez ceux qui le confessent venu en chair, et vous les appelez antichrist et séducteurs. Vous professez que le royaume du Christ est venu, et pourtant vous persécutez ceux qui témoignent qu'il est venu. Vous professez Jésus-Christ, la résurrection et la vie, et pourtant vous persécutez ceux qui témoignent qu'il l'est. Si vous dites, Comment saurons-nous si ces gens, qui disent qu'ils témoignent de ces choses, le font ou non? Je réponds, tournez vos esprits vers la lumière dont Jésus-Christ vous a éclairé, laquelle est une en tout. Et si vous marchez dans la lumière, vous aurez la lumière de la vie. Alors vous saurez et verrez ce que vous avez fait, vous qui avez persécuté le Seigneur de gloire, dans son peuple, en qui est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Nous ne vous renverrons à aucune autre pierre de touche qu'à vos propres consciences, et là vous trouverez la vérité de ce que nous vous avons déclaré, selon les saintes Écritures. Quand les livres des consciences seront ouverts et que tous seront jugés d'après eux, alors vous témoignerez que nous sommes de Dieu et que notre témoignage est vrai. Bien qu'aujourd'hui vous puissiez vous boucher les oreilles et endurcir vos cœurs tant qu'on l'appelle aujourd'hui, alors vous saurez ce que vous avez fait et contre qui vous avez transgressé. Alors vous verrez qu'aucun persécuteur, en aucun âge ni génération avant vous, n'a jamais transgressé contre cette lumière et cette mesure de Dieu manifestée de la manière dont vous l'avez fait. Car si le Christ et les apôtres furent persécutés en leur temps, les Juifs, pour la plupart, ne savaient pas qu'il était le Christ quand il vint, bien qu'ils eussent les Écritures qui prophétisaient de lui, et ils ne crurent pas non plus qu'il fut ressuscité quand les apôtres prêchèrent sa résurrection. Mais vous dites, vous croyez qu'il est venu, vous croyez sa résurrection, et pourtant vous persécutez ceux qui témoignent qu'il est venu en chair, ceux qui sont ensevelis avec lui dans le baptême, ceux qui sont conformes à sa mort et connaissent la puissance de sa résurrection. Cela vous les persécutez, vous les traînez devant les magistrats, et vous permettez qu'on les batte dans vos synagogues. Vous les faites fouetter et mettre au pilori, traiter honteusement, jeter en prison et y garder, comme le témoigne à votre face tant de prisons dans cette nation aujourd'hui. Considérez donc honnêtement ce que vous faites pendant que vous relevez les cruautés d'autrui, de peur que vous ne négligiez les vôtres. Il y a quelques différences en bien des choses entre la religion papiste et ce que vous appelez la protestante, mais dans cette persécution qui est la vôtre, il n'y a aucune différence. Car vous confesserez que le fondement de votre religion est établi sur les Écritures, et pourtant vous persécutez ceux qui sont dans la même vie que ceux qui ont donné les Écritures, tandis que vous-même demeurez sous une profession des paroles qu'ils ont dites, vous en serez un jour témoin. Ainsi vous avez une profession et une forme, et vous persécutez ceux qui sont dans la possession, la vie et la puissance. Sachez assurément que vous devez venir en jugement, car celui à qui tout jugement est remis est manifesté. À la lumière de Jésus-Christ dans vos consciences, qui vous sonne et vous éprouve, tournez vos esprits, demeurez immobiles et attendez-la de recevoir la loi juste, qui est selon ce qui est de Dieu dans la conscience, laquelle se lève maintenant et rend témoignage contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et ce que vous persécutez sont manifestes à Dieu, et ce qui est de Dieu dans toutes les consciences rendra témoignage pour nous que nous sommes de Dieu. Vous en serez un jour témoin, que vous entendiez ou que vous refusiez d'entendre. Notre joie est dans le témoignage de nos consciences, qu'en simplicité et en sincérité selon Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes conduits dans le monde, ne maniant pas la parole de Dieu avec ruse, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandant à la conscience de tout homme devant Dieu. Et si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent. Car c'est pour témoigner de la garde du mystère de la foi dans une conscience pure que nous souffrons, et que nous sommes soumis à cause de la conscience. Cela est digne d'éloge si un homme, pour la conscience, endure des peines et souffre injustement. En cela est notre joie et notre réjouissance, avoir une bonne conscience, afin que tandis qu'on parle mal de nous comme de malfaiteurs, ceux qui accusent faussement notre bonne conduite en Christ aient honte, laquelle n'est pas seulement le rejet de la souillure de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. Nous en témoignons, manifestement, louange éternelle au Dieu vivant, et rendons témoignage à ce qui le disait en l'apôtre, en vie et en puissance. C'est pourquoi nous rendons témoignage et attestons contre ceux qui, étant entrés dans une forme et une profession de cela, persécutent la vie et la puissance. Tournez vos esprits vers la lumière éternelle de Jésus-Christ, qui sonde et éprouve tous les cœurs, et voyez ce que vous faites, de peur que vous ne renversiez votre fondement, sur lequel vous prétendez vous tenir, tandis que vous professez les Écritures et persécutez la vie, la lumière et la puissance dans lesquelles étaient ceux qui les ont donnés. Car la pierre détachée de la montagne sans main frappe maintenant les pieds de l'image, la profession qui est dressée et se tient dans la volonté de l'homme. Maintenant est manifesté ce à quoi tous doivent répondre et comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans son corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien soit mal. Sachant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes manifestes à Dieu, et nous serons manifestes dans toutes vos consciences, ce dont vous serez témoins. George Fox à diverses reprises, tant au temps du long parlement que de celui du protecteur ainsi nommé et du comité de sûreté, lorsqu'il proclamait des jeûnes, je fus poussé à leur écrire et à leur dire que leurs jeûnes étaient semblables à ceux de Jézabel, car ordinairement, quand ils proclamaient des jeûnes, quelques méfaits étaient tramés contre nous. Je savais que leurs jeûnes étaient pour la crêle et la dispute, et pour frapper du poing de la méchanceté, comme les professants de la Nouvelle-Angleterre le firent bientôt après, eux qui, avant de mettre nos amis à mort, proclamèrent aussi un jeûne. J'eus de grandes souffrances vers ce temps, et il y avait une grande confusion et distraction parmi les pouvoirs et le peuple. Je passai en plusieurs endroits de la campagne, et j'eus une réunion chez le sergent Briquette, où il y avait beaucoup de personnes et quelques gens en place, dans une réunion glorieuse. Les Écritures leur furent ouvertes, et Christ fut placé au-dessus de tout, de sorte qu'un homme parmi eux fut si touché qu'il dit « Cet homme est une perle ». Or c'était un temps de grande souffrance, et beaucoup d'amis étant en prison, beaucoup d'autres amis furent poussés à aller au Parlement, pour s'offrir à être enfermés dans les mêmes prisons où leurs amis étaient détenus, afin que ceux qui étaient en prison puissent sortir et ne pas périr dans les geôles puantes. Nous fîmes cela par amour pour Dieu et nos frères, afin qu'ils ne meurent pas en prison, et par amour pour ceux qui les y jetaient, afin qu'ils ne fassent pas retomber sur leur propre tête le sang innocent, ce que nous savions devoir crier au Seigneur et attirer sur eux sa colère, sa vengeance et ses fléaux. Mais nous ne trouvâmes guère de faveur auprès de ces parlements de professants, au contraire, ils s'emportaient et parfois menaçaient les amis qui les sollicitaient de les fouetter et de les renvoyer chez eux. Puis, peu après, le Seigneur les chassait et les renvoyait chez eux, eux qui n'avaient pas le cœur de faire le bien au jour de leur pouvoir. Mais ils ne s'en allèrent pas sans avoir été avertis, car je fus poussé à leur écrire, à chacun à son tour, comme je le fis au long parlement, auquel je déclarai, avant qu'il ne fût dissous, qu'une épaisse ténèbre venait sur eux tous, un jour de ténèbres qui se ferait sentir. Et comme le parlement qui siégeait alors était composé pour l'essentiel de grands professants, qui prétendant être plus religieux que les autres, étaient en réalité de plus grands persécuteurs de ceux qui étaient vraiment religieux, je fus poussé à leur envoyer les lignes suivantes pour reprendre leur hypocrisie. « Ô amis, ne vous voilez pas et ne vous couvrez pas. Il y a un Dieu qui connaît vos cœurs et qui vous découvrira. Il voit votre voix. Malheur à celui qui se couvre, mais non de mon esprit, dit le Seigneur. » Vous agissez contre la loi, puis vous la rejetez loin de vous, vous négligez la miséricorde et le vrai jugement, voyez ce qui a été dit contre de tels. Mon Sauveur a parlé contre de tels, j'étais malade, et vous ne m'avez pas visité, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Mais ils dirent, quand t'avons-nous vu en prison et ne sommes-nous pas venus vers toi? Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, vous ne l'avez pas fait à moi, amis, vous emprisonnez ceux qui sont dans la vie et la puissance de la vérité, et pourtant vous professez être les ministres de Christ. Mais si Christ vous avait envoyé, vous feriez sortir de prison, vous délivreriez de l'esclavage et vous accueilleriez les étrangers. Vous avez vécu dans les plaisirs sur la terre et dans la débauche, vous avez engraissé vos cœurs comme en un jour de massacre, vous avez condamné et tué le juste, et il ne vous résiste pas. George Fox après cela, comme je sortais de la ville, ayant avec moi deux amis, nous étions à peine à plus d'1 mille de la cité, lorsque deux cavaliers appartenant au régiment du colonel à cœur nous rencontrèrent. Ils me saisirent ainsi que les amis qui étaient avec moi nous ramenèrent au Mews et nous y tinrent prisonniers un petit moment. Mais la puissance du Seigneur fut si forte sur eux qu'ils ne nous conduisirent devant aucun officier. Et après un certain temps, ils nous remirent en liberté. Le même jour, prenant un bateau, j'allai à Kingston et de là à Hampton Court pour parler au protecteur des souffrances des amis. Je le rencontrai entrant à cheval dans le parc d'Hampton Court, et avant d'arriver à lui, tandis qu'il chevauchait à la tête de sa garde du corps, je vis et sentis une bouffée ou apparition de mort s'avancer contre lui, et lorsque je parvins près de lui, il avait l'air d'un homme mort. Après lui avoir exposé les souffrances des amis et l'avoir averti, selon que j'étais poussé à lui parler, il me dit de venir chez lui. Je retournai donc à Kingston, et le lendemain j'allai à Hampton Court pour lui parler davantage. Mais quand j'arrivai, il était malade, et Harvey, qui le servait, me dit que les médecins ne voulaient pas que j'entre pour lui parler. Je m'en allai donc, et ne le revis jamais. De Kingston, je me rendis chez Isaac Pennington, dans le Buckinghamshire, où j'avais fixé une réunion. Et la vérité et la puissance du Seigneur se manifestèrent parmi nous d'une manière précieuse. Après avoir visité les amis de ces régions, je retournai à Londres, et peu après j'allai dans l'Essex, où je n'étais pas depuis longtemps, quand j'appris que le protecteur était mort, et que son fils Richard avait été fait protecteur à sa place, sur quoi je revins à Londres. Avant ce temps, on avait publié la foi de l'Église ainsi nommée, dont on disait qu'elle avait été faite au Savoie en 11 jours. J'en obtins une copie avant sa publication et j'y répondis par écrit. Et lorsque leur livre de foi de l'Église se vendait dans les rues, ma réponse s'y vendait aussi. Cela déplut à certains membres du Parlement. L'un d'eux me dit « Il faut qu'on t'aide à Smithfield ». Astérisque, je lui dis que j'étais au-dessus de leur feu et que je ne les craignais pas. En raisonnant avec lui, je souhaitais qu'il considère ceci, Tous les gens auraient-ils donc été sans foi pendant ces 1600 ans, pour que maintenant les prêtres doivent leur en fabriquer une? L'apôtre ne disait-il pas que Jésus était l'auteur et le consommateur de leur foi, et puisque Jésus-Christ était l'auteur de la foi des apôtres, de la foi de l'Église au temps primitif, et de la foi des martyrs, tous les gens ne devraient-ils pas regarder à lui comme à l'auteur et au consommateur de leur foi, et non aux prêtres? Nous eûmes fort à faire avec cette foi fabriquée par les prêtres. Ils nous appelaient des rôdeurs de maisons, menant des femmes faibles en captivité, parce que nous nous réunissions dans des maisons, et ne voulions pas soutenir leurs prêtres et leurs temples qu'ils avaient faits et établis. Je leur dis que c'était eux qui menaient des femmes faibles en captivité et se glissaient dans les maisons, eux qui tenaient les gens toujours à apprendre sous leur direction, eux qui étaient cupides et avaient une forme de piété, mais en niaient la puissance et l'esprit dans lesquels étaient les apôtres. De tels commencèrent à se glisser dès les jours des apôtres, mais maintenant ils avaient les magistrats de leur côté, qui soutenaient pour eux ces maisons dans lesquelles ils s'étaient glissés, leurs temples, avec leurs dîmes, alors que les apôtres détournèrent les gens même de ce temple-là, et de ces dîmes et offrandes que Dieu avait commandées pour un temps. Et les apôtres se réunissaient dans diverses maisons privées, étant conduits à prêcher l'Évangile à toutes les nations, ce qu'ils faisaient gratuitement, comme le Christ le leur avait commandé. Ainsi faisons-nous, nous qui détournons les gens de ces prêtres, temples et dîmes que Dieu n'a jamais commandés, pour nous réunir dans des maisons, ou sur des montagnes ** comme le faisaient les saints d'autrefois, qui étaient rassemblés au nom de Jésus, et Christ était leur prophète, leur prêtre et leur berger. **Smithfield était le lieu à Londres où l'on brûlait sur le bûcher les hérétiques religieux, ceux qui avaient une opinion différente de ceux au pouvoir, notamment lorsque la reine catholique romaine Marie d'Angleterre fit brûler 274 protestants sur le bûcher. **Les Quakers se réunissaient souvent dans des granges, des maisons privées et des champs, pendant de nombreuses années avant d'avoir des maisons de réunion. On les méprisait à cause de cela, les jugeant incivilisés, et on les appelait « Housemeeters », ne se réunissant pas dans de grands bâtiments qui reflètent la vanité et l'orgueil de l'homme. George Fox a rédigé un écrit détaillé montrant comment le Christ, les disciples et les apôtres se réunissaient souvent dans des maisons ou dehors. Anecdote intéressante, avant que les maisons de réunion Quakers simples et fonctionnelles ne soient construites, ils se réunissaient à l'extérieur. George Whitehead rapporte s'être réuni dehors sous la pluie et la neige pendant 2 ans, dans le grésil glacé de l'hiver. Bien qu'ils restassent immobiles plusieurs heures, ils n'avaient pas froid et ne tombèrent jamais malades, soin surnaturel de notre Père et Fils aimant, veillant sur ses brebis. Back next!